Chers camarades, chers amis, nous allons démarrer ce cercle Léon Trotsky qui a un caractère un peu particulier puisque trois camarades y interviendront. Tout d'abord, Pierre Royan de Lutte ouvrière. Max Céleste de Combat ouvrier Guadeloupe et Martinique. Et la camarade Judith Carter du groupe Spark pour les États-Unis. Pour ne pas prolonger trop tard cette réunion, contrairement à nos habitudes, cette fois-ci, nous n'organiserons pas de débat. Nous ferons bien sûr une interruption et à la reprise, Pierre Royan conclura ce CLT. Alors, avant de démarrer, je vous demanderai de bien vouloir éteindre la sonnerie de votre portable. Il y a 80 ans, le 3 septembre 1938, se réunissaient dans un pavillon de banlieue parisienne une vingtaine de militants provenant de 12 pays, les États-Unis, l'Union soviétique, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la France, l'Italie, le Brésil, la Pologne, la Belgique, l'Autriche et les Pays-Bas. Et ils fondèrent la quatrième internationale, et adoptèrent comme programme un texte écrit par Léon Trotsky quelques mois auparavant, le programme de transition. Cette décision de créer une quatrième internationale venait de Trotsky, alors lui-même exilé et bloqué au Mexique. Il s'agissait d'un acte politique d'importance qui signifiait que la troisième internationale, celle créée dans la foulée de la Révolution russe, était politiquement morte et avait définitivement trahi son objectif d'être le parti mondial de la Révolution socialiste. Staline l'avait transformé en outil de sa diplomatie et il était temps de construire, de reconstruire le mouvement ouvrier sous le drapeau d'une nouvelle internationale. Ceux qui, dans le mouvement communiste international, avaient rejoint le courant trotskiste représentaient une très faible minorité en comparaison de ceux qui restaient sous la coupe du stalinisme. Et surtout, le fleuron du courant révolutionnaire, les trotskistes soviétiques, venaient presque tous de périr dans les camps de Staline et sous ses balles. Mais cette décision de créer une nouvelle internationale était fondamentale, car en 1938, même si Trotsky et les siens étaient calomniés et persécutés par les hommes de Staline, Trotsky restait mondialement connu, connu comme l'un des principaux dirigeants de la Révolution russe et compagnon de Lénine. Trotsky incarnait le refus de capituler devant l'appareil stalinien et en même temps qu'il soumettait le régime stalinien à une critique impitoyable du point de vue du communisme révolutionnaire, il défendait sans condition l'URSS contre les puissances impérialistes. Il était minuit dans le siècle, pour reprendre l'expression de Victor Serge, un militant anarchiste belge qui avait rejoint la Révolution russe et participé au combat des trotskistes. Oui, minuit dans le siècle, Hitler était au pouvoir en Allemagne. Cela signifiait, comme Trotsky l'écrivit dès 1933, que l'impérialisme allemand, à la tête d'une des plus grandes puissances industrielles du monde, étouffant dans ses frontières, allait, après avoir maté sa classe ouvrière, allait s'attaquer à ses concurrents directs, les impérialismes français et anglais, et que l'humanité allait à nouveau plonger dans la guerre mondiale. En réalité, la guerre était déjà là. En Espagne, sur les champs de bataille de la guerre civile, les aviations et les armées de Hitler et de Mussolini semaient la mort. La Chine avait été envahie par le Japon, qui commettait des massacres de masse. Et Mussolini avait déjà conquis l'Éthiopie. En septembre 1938, Trotsky comprenait mieux que quiconque la situation mondiale et dans quel état se trouvait le mouvement ouvrier. Mais il voulait préparer la classe ouvrière à la guerre à venir et aux révolutions à venir. Il voulait donner à la classe ouvrière un programme dans la continuité de la révolution russe et des idées de Marx. Et il voulait donner une organisation internationale. Et cela même si cette organisation était numériquement très faible. Trotsky savait très bien que tant que les masses ne se soulevaient pas, l'ensemble du programme ne pouvait toucher qu'une petite minorité. Mais avec ce programme, cette minorité pouvait militer en direction du reste de la classe ouvrière. Aujourd'hui encore, l'avenir du mouvement ouvrier et donc l'avenir de l'humanité sont liés à ce programme. Car quand le prolétariat se mettra en mouvement, s'il s'empare de ce programme, il pourra renverser le capitalisme. Je passe la parole à Pierre Royan.
Les 20 années de lutte de classe, d'une richesse politique et d'une intensité exceptionnelle, sans équivalent dans l'histoire du mouvement ouvrier, qui forgèrent le trotskisme, commencèrent par l'événement qui avait déstabilisé le système capitaliste tout entier, la Révolution russe de 1917. Le trotskisme est d'abord l'héritage de la Révolution russe. En éclatant en Russie, après 2 ans et demi de guerre mondiale, la Révolution avait surpris tout le monde. Comme l'a écrit Trotsky des années après, même Lénine reléguait la révolution socialiste dans un avenir plus ou moins lointain. Et si Lénine envisageait ainsi la situation, il n'est alors guère nécessaire de parler des autres. La révolution avait couvé au front, dans la boue et le froid des tranchées de cette sale guerre impérialiste que les capitalistes se menaient avec la peau des peuples, et où les hommes crevaient comme des rats sous les bombes, la mitraille et le gaz. Elle avait couvé à l'arrière, où les ouvrières et les ouvriers mouraient de faim et d'épuisement dans les usines d'armement. La révolution éclata en Russie, car c'était le maillon le plus faible de la chaîne de l'impérialisme, comme avait dit Lénine, le pays le plus arriéré, au régime tsariste détesté, qui avait déjà été bousculé 12 ans plus tôt par une première révolution, celle de 1905. Alors, le 8 mars 1917, à la surprise générale, ce sont les ouvrières et les femmes du peuple de Saint-Pétersbourg qui, protestant contre la pénurie et les problèmes de ravitaillement, sortirent dans les rues. Qu'allaient faire les ouvriers ? Allaient-ils les laisser seuls ? Le lendemain, quand les ouvriers les eurent rejointes, que feraient les soldats, ces paysans sous l'uniforme ? Allaient-ils se joindre à la révolte et la transformer en révolution ? En 5 jours, tout ce que le tsarisme comptait d'ennemis, c'est-à-dire toute la société, ou presque, se coalisa et le régime fut renversé. Ce n'était qu'un début. Dans un premier temps, les grands vainqueurs furent les bourgeois et leurs alliés des grandes puissances impérialistes, la France et l'Angleterre, avec lesquels ils comptaient bien poursuivre la guerre avec la peau des soldats pour assouvir leurs appétits d'annexion. Alors si les ouvriers et les soldats voulaient vraiment mettre fin à la guerre, ils devaient aller plus loin. La révolution ne serait pas allée plus loin s'il n'y avait pas eu Lénine. Son opiniâtreté, son indéfectible confiance dans la classe ouvrière et dans les masses les plus arriérées. Et s'il n'y avait pas eu le parti bolchevique qui s'était créé, formé et développé depuis des années pour mener la révolution le plus loin possible dans l'intérêt des opprimés. Le parti bolchevique était un parti communiste révolutionnaire qu'il y ait le sort des opprimés de Russie à celui des opprimés de toute la planète pour renverser le capitalisme. La révolution d'octobre 1917, qui 8 mois après février amena les bolcheviks au pouvoir, résultat de la conjonction de cette perspective révolutionnaire consciente incarnée par le parti bolchevique de Lénine avec la nécessité pour des millions d'opprimés, s'ils ne voulaient pas revenir en arrière, d'aller jusqu'au bout du combat qu'ils avaient eux-mêmes enclenché. Et ensemble, ils n'ont pas reculé. Malgré la bourgeoisie et les classes dominantes qui menaçaient de les écraser, malgré les pressions de la petite bourgeoisie qui prétendait guider les prolétaires du haut de son savoir, mais qui en réalité n'exprimait que sa soumission à la bourgeoisie, et même malgré les hésitations venant de leur propre rang. Ils ont osé, comme l'a écrit de sa prison la révolutionnaire allemande Rosa Luxembourg. Ils se sont lancés à l'assaut du ciel, comme avait dit Marx à propos de la Commune de Paris. Oui, ils ont osé s'appuyer sur les masses analphabètes et les sans-grades, sur leur conscience naissante et leur désir de s'émanciper de leur chaîne et de leur soumission. La guerre avait mis l'Europe à feu et à sang, et la révolution couvait partout. Il fallut moins d'une année pour qu'elle éclate en Finlande, en Allemagne et en Hongrie. Des dizaines de millions d'exploités dans le monde remirent en cause l'ordre social, créant une frayeur et une haine parmi les classes dominantes de toute la planète. Dans une note confidentielle, le Premier ministre britannique, Lloyd George, écrivait en 1919. Je cite « L'Europe entière est pleine d'un esprit de révolution. Il existe un profond sentiment non seulement de mécontentement, mais de colère et de révolte des travailleurs contre leurs conditions d'avant-guerre. L'ensemble de l'ordre social existant, dans ses aspects politiques, sociaux et économiques, est mis en question par les masses de la population d'une extrémité à l'autre de l'Europe. » En mars de cette année 1919, les bolcheviks fondèrent une nouvelle internationale, l'Internationale communiste, pour permettre aux travailleurs de tous les pays de rompre avec les partis socialistes qui les avaient trahis en 1914. Des partis communistes furent fondés partout. Durant cette vague révolutionnaire, des républiques soviétiques se constituèrent, en Hongrie, en Bavière et en Slovaquie. L'Italie connut une vague de grèves avec occupation d'usines par les ouvriers armés et organisés en milices prolétariennes. Mais les révoltes et les révolutions furent écrasées. La vague révolutionnaire refluait. Elle avait empêché les forces impérialistes d'abattre le pouvoir issu de la révolution en Russie. Et à la fin de la guerre civile, en 1920, ils tenaient toujours debout. Mais ils se trouvaient isolés. Aucun révolutionnaire n'avait envisagé cette situation. La révolution mondiale victorieuse, l'économie mondiale prise en main par les exploités, réorganisée et planifiée en fonction des besoins de l'humanité tout entière, c'était l'avenir communiste. Mais que pouvait faire une Union soviétique encerclée par le capitalisme, réduite à ses seules ressources humaines terriblement arriérées? L'Union soviétique était immense, avec des richesses en matières premières exceptionnelles, mais le développement industriel du temps du tsarisme avait été très faible. L'immense majorité de la population était constituée de paysans très pauvres, aux méthodes d'agriculture très rudimentaires. Et le niveau culturel général était considérablement en retard sur l'Occident. La jeune classe ouvrière russe, issue des campagnes depuis seulement une ou deux générations, était beaucoup moins formée et cultivée que celle des pays développés. Au travers des années de lutte contre le tsarisme, elle avait fait sortir de ses rangs des centaines de milliers de combattants conscients. Et la révolution avait été, comme dit Lénine, en des moments d'exaltation et de tension particulière de toutes les facultés humaines, l'œuvre de la conscience, de la volonté, de la passion, de l'imagination de dizaines de millions d'êtres humains aiguillonnés par la plus âpre lutte de classe. Mais après la prise du pouvoir, le problème se posait à une toute autre échelle. La société nouvelle reposait sur la participation directe et active des masses. À la base du nouvel État, il y avait les soviets, ces comités, ces organes de la démocratie ouvrière élus par les travailleurs et les paysans pauvres. Mais l'action des masses ne se limitait pas à cela. À tous les niveaux de la vie économique et sociale, dans les entreprises, les administrations, les écoles, à la ville, à la campagne, des dizaines et des dizaines de millions d'opprimés étaient appelés à prendre part à la gestion concrète de la société. Il y eut une volonté farouche et générale de s'éduquer, de se cultiver, de combattre l'analphabétisme, l'ignorance et les superstitions, pour que le premier manœuvre ou la première cuisinière venue puisse contrôler l'État, comme avait dit Lénine. Mais le poids de l'arriération était immense, comme le pays. Isolée politiquement et économiquement, l'Union soviétique ne pouvait sortir de son sous-développement hérité du tsarisme. Et c'est ce qui allait être la source de sa dégénérescence et de la domination d'une bureaucratie incarnée par Staline. Trotsky, dans son livre « La révolution trahie », résume ce lien entre l'arriération du pays et le poids de la bureaucratie par l'image d'une queue devant un magasin. Je le cite. « Quand il y a assez de marchandises au magasin, les chalands peuvent venir à tout moment. Quand il y a peu de marchandises, les acheteurs sont obligés de faire la queue à la porte. Sitôt que la queue devient longue, la présence d'un agent de police s'impose pour le maintien de l'ordre. Tel est le point de départ de la bureaucratie soviétique. Elle sait à qui donner et qui doit patienter. » Le développement de la bureaucratie avait commencé dès le début du nouveau régime. Les bolcheviks connaissaient les dangers professionnels du pouvoir, comme dira plus tard un dirigeant de l'opposition trotskiste, Christian Rakovski. Les bolcheviks savaient que tout État crée une bureaucratie. Mais ils comptaient sur l'action directe des masses pour contenir le phénomène bureaucratique et sur l'extension de la révolution aux pays développés d'Europe pour pouvoir s'en débarrasser définitivement. Mais l'isolement de l'Union soviétique l'obligeait à tenir, à partir de ses seules ressources, en attendant d'autres périodes révolutionnaires. Alors, pour relancer l'économie et nourrir le pays, en prenant en compte son arriération, le pouvoir décida de redonner un peu d'oxygène à l'initiative privée. Il entrouvrit la possibilité d'un enrichissement personnel, une nouvelle politique économique, qui permettait aux paysans, à des petits industriels ou des intermédiaires commerciaux de s'enrichir. C'était s'appuyer sur des forces capitalistes pour relancer la production, mais sous le contrôle de l'État ouvrier. Lénine savait qu'il fallait surveiller de près le renforcement de ses forces sociales hostiles et que c'était justement la tâche du parti. Mais l'héroïsme de la guerre civile, où toutes les forces avaient été tendues pour la survie de la révolution, avait dévoré l'énergie des femmes et des hommes. Et devant les difficultés du quotidien, conjuguées au reflux de la vague révolutionnaire internationale, les travailleurs avaient en partie perdu espoir et déserté les soviets. Sans ce contrôle permanent des opprimés, la petite bourgeoisie des villes et des campagnes se mit à faire pression sur la bureaucratie de l'État et du parti pour obtenir des avantages. Si ces forces sociales agissaient sur le parti, parfois en corrompant certains de ses membres, c'est aussi du parti que pouvait venir la lutte contre elle. Lénine, bien que malade, voulut mener ce combat, avec Trotsky, contre Staline, qui incarnait déjà la bureaucratie. Mais la maladie rattrapa Lénine. Privé de la faculté de parler et de se mouvoir, il ne put mener son dernier combat. Alors c'est Trotsky qui s'en chargea. Il fallait regagner le parti à l'esprit révolutionnaire de 1917, en regroupant tous ceux qui, notamment dans la jeunesse, gardaient cette flamme vivante. Ensuite, il fallait rallier et convaincre les autres. C'est dans le parti que se trouvaient les ouvriers révolutionnaires. Pour donner une idée concrète de ce combat, les mémoires du trotskiste Grigori Grigorov méritent d'être citées et largement. Fin 1923, Grigorov, qui avait rejoint le parti comme combattant de l'armée rouge, fut envoyé dans un centre industriel du textile, Rodniki. Dans ses mémoires, il décrit la situation de la classe ouvrière et celle des membres de l'appareil local du parti. Alors je le cite, « La plus grande partie des ouvriers vivait dans des maisons de bois misérables, à la limite de l'effondrement, dans lesquelles, faute de combustible, on avait froid. D'énormes files d'attente se formaient pour acheter des produits alimentaires. Les membres du comité local du parti, eux, recevaient tous les produits dont ils avaient besoin dans un centre de distribution non ouvert au public, une situation qu'ils considéraient comme parfaitement normale. le niveau moral des permanents du parti était des plus bas. Ils consommaient de la vodka et du torboyau maison, même au travail, et le soir, ils jouaient aux cartes et faisaient la noce. La jeune militante qui dirigeait le secteur féminin du comité du parti m'avait invité à une réunion des ouvrières du textile. Là, elle exposa avec enthousiasme que le pouvoir soviétique avait donné une complète liberté à la femme. Mais pour ce qui la concernait, elle, cette fameuse liberté comportait un côté affligeant. Elle souffrait d'une maladie vénérienne. Elle s'indigna avec une franchise à laquelle j'étais peu habitué. Tu imagines ce cadeau que m'a fait un salopard du comité du parti ? Grigorov resta là plusieurs jours et fut invité à une réunion des membres du parti d'une usine. La réunion débuta par le discours du directeur, Balakhnine, un membre du parti évidemment. Balakhnine commença par énumérer les services que dans le passé il avait rendus à la classe ouvrière. Ce faisant, il avait un air des plus satisfaits de lui. Ensuite, sans se gêner, Balakhnine se mit à dénoncer Trotsky, à rappeler ses divergences avec Lénine, à le traiter tantôt de liquidateur, tantôt de menshevik, les socialistes qui avaient trahi la révolution en 17. Puis il alla dans le mensonge, jusqu'à dire que Trotsky s'était opposé à l'insurrection armée d'octobre et que s'en prenant maintenant au véritable léniniste, il était un idéologue de la petite bourgeoisie. Et pour conclure, il porta un toast en l'honneur du comité central léniniste. Voilà. On entendit deux ou trois personnes applaudir, puis un long silence se fit. Le secrétaire du comité local du parti proposa alors que l'on passe aux questions. Et là, les questions des ouvriers, eux aussi membres du parti, se mirent à pleuvoir. Comment donc Lénine avait-il pu confier la direction de l'armée rouge au menshevik Trotsky ? Pourquoi tenait-on Trotsky en estime quand Ilitch, Lénine, était en bonne santé ? Comment Trotsky aurait-il pu être contre l'insurrection d'octobre, lui qui dirigeait sa préparation ? Et Staline, qui est-il ? Nous ne le connaissons pas. Pourquoi nous fournit-on du pain rassis et congelé ? Jusqu'à quand les ouvriers seront-ils privés de leurs droits ? Pourquoi à la cantine de l'usine nous nourrit-on plus mal que des chiens ? Toutes ces questions s'accompagnaient de bruits et d'exclamations divers. Ils sont devenus des bureaucrates. Ils sont coupés des ouvriers. Ils nous bâillonnent. Ils nous promettent le paradis sur terre pour demain, mais aujourd'hui, ils nous appellent à souffrir. Tandis que pour les chefs, c'est déjà le paradis. Grigorov savait que le directeur avait suivi les instructions de l'appareil qui menait campagne pour diffamer Trotsky. Alors il intervint pour établir la vérité sur Trotsky et son rôle avant et pendant la Révolution. Puis il aborda le combat contre la bureaucratie dans le parti et dans l'État. Je reprends le récit de Grigorov. Du fait de la maladie de Lénine, une lutte pour le pouvoir s'est engagée au comité central. Tandis qu'au Politburo, une majorité fait bloc contre Trotsky, personnage le plus populaire dans le parti et dans l'armée. Mais la population n'a que faire de cette lutte. Pour elle, ce qui importe, c'est de résoudre les questions essentielles. Amélioration des conditions de logement, augmentation des salaires, problème de l'approvisionnement alimentaire. Les ouvriers doivent s'octroyer le droit de participer à la prise des décisions qui concernent leur existence. Le discours de Grigorov se termina par un tonnerre d'applaudissements. Le directeur tenta de le discréditer en criant « Grigorov est un enseignant menshevik, à qui faites-vous confiance ?» Mais un ouvrier lui répondit « Dis donc toi, Balakhnine, tu aurais bien fait d'aller d'abord étudier à l'école avant d'aller t'asseoir dans un fauteuil de directeur. » Deux résolutions furent votées. Celle du directeur obtint 19 voix, celle de Grigorov 150. Mais voici la suite. Quand on proclama les résultats du vote, il se produisit un incident très étonnant. Balakhnine sortit un pistolet de sa poche, le pointa sur moi et s'écria « Des mensheviks comme lui, il faut les fusiller ». Un groupe d'ouvriers fondit sur lui, lui arracha le pistolet et il quitta la salle. Après cela, tous en tonnèrent l'international. Des cris fusèrent « Vive les chefs de la Révolution, Lénine et Trotsky, vive l'organisateur de l'armée rouge ». Nous mettions du temps à nous séparer. Le secrétaire du comité local du parti vint vers moi et me dit « Pour cette réunion, on va me retirer mon poste et je ne vais pas te remercier ». À quoi je répondis « Tu n'as rien à craindre, tu es un ouvrier, tu iras travailler à la fabrique, alors que pour moi, cela se présente de façon plus délicate. Mais je ne regrette absolument pas d'avoir dit la vérité aux ouvriers ». Comme le montre ce récit, la gangrène bureaucratique avait progressé en prenant de court les révolutionnaires. Ils avaient vu l'enrichissement de certains et le recul de la vie démocratique dans le parti. Mais en même temps, tous ces militants, y compris les bureaucrates, s'étaient retrouvés sur les fronts de la guerre civile, combattant côte à côte. Et puis, bon an mal an, pourquoi ne pas faire confiance aux déclarations réconfortantes de l'appareil, qui assuraient que les choses s'amélioraient ? Il fallait du courage pour apparaître ouvertement comme un oppositionnel et suivre Trotsky sur lequel s'acharnait tout l'appareil. Le trotskisme est né dans ce combat. Dès fin 1923, plusieurs milliers de militants rejoignirent Trotsky pour former avec lui l'opposition de gauche. Autour de ce noyau, des dizaines de milliers de membres du parti sympathisaient plus ou moins clandestinement. Parmi eux, il y avait des vieux bolcheviks qui avaient connu les prisons du Tsar, les déportations et l'exil. Mais il y avait surtout des jeunes ayant rejoint le parti au moment de la Révolution ou pendant la guerre civile. Et tous, ils incarnaient la Révolution d'octobre et le bolchevisme. Ils militèrent dans le Parti communiste parce que c'était leur parti. Ils voulaient le régénérer, faire revenir la démocratie en son sein, lui redonner son sens de parti de la classe ouvrière. Pendant 10 ans, les oppositionnels s'interdirent de construire un nouveau parti. Mais pour ce qui est de l'audience, de l'implantation dans la classe ouvrière et de la compétence des militants et de la direction, ils étaient un véritable parti, comme le mouvement trotskiste n'en connaîtra plus par la suite. Au début de 1926, les oppositionnels réussirent à regagner une fraction de leurs anciens camarades, ceux qui avaient suivi Zinoviev et Kamenev. Jusqu'alors, ceux-là avaient fait bloc avec Staline contre Trotsky, mais là, ils venaient de se retourner. Victor Serge, qui militait alors à Leningrad, raconte ce revirement de plusieurs vieux bolcheviks. Je le cite. « Les vieux chefs du parti de Leningrad, que je connaissais presque tous depuis 1919, paraissaient avoir changé d'âme en une nuit. Et je ne peux m'empêcher de penser qu'ils éprouvaient un profond soulagement à sortir du mensonge asphyxiant pour nous tendre la main. Ils parlaient de ce Trotsky qu'ils dénigraient odieusement l'avant-veille avec admiration et commentaient les résultats des premières entrevues entre lui, Zinoviev et Kamenev. L'opposition unifiée présenta en 1927 une plateforme politique pour le 15e congrès du parti. C'était le programme révolutionnaire de la classe ouvrière d'Union soviétique. La plateforme réclamait que l'augmentation des salaires ouvriers marche de pair avec l'augmentation du rendement dans l'industrie. Elle disait qu'il fallait chercher l'alliance avec les paysans pauvres et combattre les paysans riches, en exonérant de l'impôt les premiers et en prenant davantage aux seconds, ainsi qu'aux capitalistes, sans augmenter les impôts des paysans moyens. La plateforme disait qu'il fallait développer l'industrie étatisée pour que la diminution des prix atteigne avant tout les produits de première nécessité consommés par les larges masses des ouvriers et des paysans. Elle insistait sur le lien indissoluble entre l'avenir de l'Union soviétique et la révolution à l'échelle internationale. Et elle mettait au premier plan la lutte contre les comportements bureaucratiques en réclamant le retour de la démocratie à l'intérieur du parti. Même 10 ans après la révolution, ce programme résonnait dans les cœurs de bon nombre de travailleurs et de militants. Il touchait aussi par sa véracité les plus jeunes. L'écho recueilli par l'opposition représentait un danger mortel pour la bureaucratie. Alors, Staline décida de la museler. Et juste avant le congrès, l'opposition fut exclue. Ses militants furent envoyés en déportation ou en prison. L'appareil réussit à en faire capituler certains. Mais des milliers restèrent fermes, malgré la répression. À l'image de Rakovski, un des rares dirigeants de l'opposition qui avait pu assister au congrès et qui répondit au comité central qui lui demandait de capituler « Je commence à me faire vieux, pourquoi gâcher ma biographie ?» Et il fut déporté. Trotsky fut déporté au Kazakhstan. Puis un an après, pour le couper radicalement du reste de l'opposition et frapper celle-ci à la tête, Staline le fit expulser d'Union soviétique. Mais même sans Trotsky, même emprisonné et réprimé, les oppositionnels ne pliaient pas et leurs analyses et leurs tracts continuaient de circuler dans les usines et les quartiers ouvriers. Au milieu des années 1930, l'opposition vit même venir à elle de nouveaux adhérents, des jeunes et des ouvriers. Alors Staline organisa leur liquidation totale. Persécutés comme ils l'étaient, les oppositionnels n'avaient plus aucun moyen de se battre, si ce n'est en refusant de capituler devant la terreur. Accepter de se soumettre, c'était laisser l'appareil salir tout leur combat, le laisser dire qu'ils étaient des menteurs et des traîtres à la classe ouvrière. L'immense majorité des oppositionnels qui suivaient Trotsky depuis 1923 préféra mourir plutôt que de céder. Ce geste héroïque était avant tout politique, et on ne peut pas comprendre leur détermination. Si on ne comprend pas que c'est la révolution russe qui les portait, la fidélité à ce combat et à ce moment unique de l'histoire de la lutte des classes où ils avaient entrevu le renversement total du capitalisme. Ils savaient qu'ils étaient les derniers à incarner le bolchevisme et qu'ils ne devaient pas céder pour qu'il y ait une chance de transmettre cet héritage aux nouvelles générations. À l'échelle internationale, le mouvement communiste s'était développé en parallèle de cette dégénérescence de l'État soviétique. Des militants ouvriers avaient rompu avec les partis socialistes ou les syndicats anarchistes pour se tourner vers la Troisième Internationale et aller à l'école du bolchevisme, pour faire comme en Russie. Mais à peine venaient-ils de franchir ce pas qu'ils étaient confrontés aux luttes internes à la direction du parti soviétique, lutte dont ils ne saisissaient pas les enjeux. James Cannon, qui était alors un des dirigeants du Parti communiste des États-Unis et qui devint par la suite trotskiste, raconte sa propre incompréhension au début de l'opposition de gauche. J'éprouvais une très grande insatisfaction. Le conflit dans le parti russe ne m'a jamais enthousiasmé, je ne le comprenais pas. Et le critère qui servait à juger les dirigeants à Moscou, c'était qui avait vociféré le plus fort contre le trotskisme et contre Trotsky. Même quand la politique de l'international communiste que l'opposition combattait avait des conséquences catastrophiques, l'immense majorité des militants communistes dans le monde n'en comprenait pas les enjeux et les raisons. En Chine, en 1927, alors qu'une révolution prolétarienne avait éclaté, l'international obligea les communistes chinois à se ranger derrière des dirigeants bourgeois qui se retournèrent contre la classe ouvrière et écrasèrent dans le sang la révolution. Mais Cannon avoue avec sincérité, je le cite, « Les provinciaux américains que nous étions ne connaissaient rien là-dessus. La Chine était lointaine et nous n'avions jamais vu aucune des thèses de l'opposition de gauche. » Quand Cannon découvrit ces thèses, il devint trotskiste. Le reflux général de la vague révolutionnaire avait à la fois renforcé la bureaucratie en URSS et les tendances conservatrices dans les partis communistes. La conjonction des deux transforma l'internationale communiste de Lénine en une internationale stalinienne qui allait devenir une arme contre les révolutions. Et la victoire du parti nazi en Allemagne en 1933 allait révéler tout ce que cette évolution avait eu de fatal. En Allemagne, lors de la montée du nazisme, au début des années 30, la classe ouvrière était organisée dans deux grands partis ouvriers, le Parti socialiste et le Parti communiste. Le PC avait été décapité dès sa naissance en 1919 par l'assassinat de plusieurs de ses dirigeants, dont Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht. Il s'était relevé et avait grossi au cours des épisodes révolutionnaires qui avaient suivi. Mais il avait vite sombré dans un suivisme aveugle vis-à-vis de l'appareil stalinien. Les forces organisées du mouvement ouvrier allemand étaient considérables. Coordonnées pour lutter contre les nazis, elles auraient pu créer un front uni puissant. Mais la lutte résolue contre le nazisme signifiait la lutte contre le capitalisme et la révolution ouvrière. Les dirigeants du Parti socialiste n'en voulaient pas. Leur politique se résuma à espérer que la bourgeoisie allemande n'appelle pas les nazis au pouvoir. La direction stalinienne du Parti communiste avait elle aussi renoncé au combat révolutionnaire. Ce qu'elle cachait derrière un sectarisme suicidaire, avec la formule dite du social-fascisme, qui considérait que le Parti socialiste et le Parti nazi étaient des jumeaux et empêchaient tout front uni des travailleurs. Désorientée par les directions du PC et du PS, la classe ouvrière allemande fut livrée sans combat à Hitler, qui, dès qu'il eut le pouvoir, broya les organisations ouvrières, en assassinant ses militants et en les enfermant dans des camps de concentration. La destruction du mouvement ouvrier allemand fut un coup de tonnerre. Mais aucune direction d'aucun parti communiste au monde ne critiqua la politique stalinienne, révélant la faillite complète de la Troisième Internationale. La victoire de Hitler signifiait que l'impérialisme allemand allait se préparer à une nouvelle guerre mondiale. Et cette Allemagne nazie était une menace évidente contre l'URSS. Mais la bureaucratie soviétique était devenue incapable de voir dans les explosions révolutionnaires du prolétariat autre chose qu'un danger pour elle. Alors elle chercha des alliés du côté des pays impérialistes. Et elle mit l'international communiste au service de sa diplomatie. Ce que Staline avait à offrir à ses alliés impérialistes, c'était sa capacité à tromper la classe ouvrière. Sur ordre de Moscou, les dirigeants des PC stalinisés tendirent la main à tout ce qui se trouvait sur leur droite, aux partis socialistes et à des partis bourgeois, comme ils le firent en Espagne et en France, en mettant en place des fronts populaires, avec comme objectif de canaliser la contestation ouvrière sur le terrain de l'électoralisme. En même temps, et c'était lié, ils ne toléraient pas la moindre expression indépendante sur leur gauche, qui aurait dénoncé leur trahison et leur forfaiture. Quand la révolution prolétarienne espagnole éclata, en juillet 1936, l'international communiste intervint pour la première fois, consciemment, dans un sens contre-révolutionnaire. Une révolution espagnole victorieuse aurait immédiatement trouvé le soutien de la classe ouvrière française, qui venait de vivre la grève générale de juin 1936 avec ses occupations d'usines. Cela aurait été un retournement politique considérable dans cette Europe où le fascisme se répandait. Mais la bureaucratie craignait la révolution prolétarienne encore plus que la guerre mondiale, car un nouvel État ouvrier aurait révélé l'usurpation stalinienne aux yeux de tous les travailleurs. Alors Staline mit tout en œuvre pour étrangler la révolution. Les staliniens et les socialistes, alliés dans le Front populaire espagnol, obligèrent les exploités à renoncer à leurs revendications révolutionnaires, sous prétexte que dans le combat contre l'extrême droite franquiste, il ne fallait pas effrayer une imaginaire bourgeoisie républicaine. Avec la complicité des chefs anarchistes du puissant syndicat CNT, ils étouffèrent l'élan des masses. La bourgeoisie, elle, avait choisi le franquisme, et les staliniens assassinaient les révolutionnaires espagnols. Staline avait envoyé des armes en Espagne, non pas aux travailleurs, mais à cette composante de l'État se disant républicaine. Il avait aussi rassemblé des troupes pour elle. À l'appel de l'international communiste, des militants venant de toute l'Europe constituèrent les brigades internationales. Ils étaient venus combattre le franquisme, croyant donner leur vie pour que le mouvement communiste prenne sa revanche sur Hitler, Mussolini et tous les dictateurs d'Europe. Mais ces mêmes militants fournirent au stalinisme les troupes pour réprimer la révolution espagnole. C'est parce qu'il avait réussi à se faire passer pour le continuateur de Lénine que Staline pouvait agir ainsi et imposer aux militants communistes de tous les pays ce que jamais aucun parti bourgeois ou réformiste n'aurait pu leur imposer. Le stalinisme réintroduisit au sein même du mouvement ouvrier des idées bourgeoises comme le nationalisme et l'électoralisme qui n'avaient rien à voir non seulement avec le bolchevisme mais même avec ce que le mouvement ouvrier avait construit avant. Cette régression politique, cette corruption du mouvement ouvrier, la bourgeoisie n'aurait pu l'obtenir sans le stalinisme. La confiscation du drapeau de la révolution russe par le stalinisme fit de lui un poison infiniment plus fatal pour le mouvement ouvrier révolutionnaire que tous les poisons réformistes du passé. Alors, quand fut fondée la 4e internationale, en septembre 1938, celle-ci ne regroupait que de petites organisations. Dans l'histoire du mouvement ouvrier, depuis Marx, il y avait toujours eu un courant révolutionnaire dans la classe ouvrière. De génération en génération, que ce soit dans les périodes de tempête ou de calme de la lutte de classe, la transmission s'était toujours faite, de militant en militant, qui apprenaient les uns des autres. Même quand il y eut des ruptures dans cette continuité, cette transmission avait quand même pu avoir lieu. Les partis socialistes avaient été fondés avec des militants qui s'étaient formés auprès de Marx et d'Engels. Après la Révolution russe, les partis communistes s'étaient créés à partir des courants révolutionnaires, des partis socialistes ou des syndicats ouvriers de tendance anarchiste. Pour la première fois dans l'histoire, le stalinisme avait rompu cette continuité humaine, militante, en exterminant les trotskistes soviétiques et en corrompant les partis communistes au point d'en faire des partis au service des intérêts de la bourgeoisie. Les idées révolutionnaires étaient devenues un spectre. Même dans cet état, elles ont continué à hanter la bourgeoisie. Quelques jours avant la déclaration de guerre entre la France et l'Allemagne, en août 1939, Hitler rencontra l'ambassadeur français à Berlin et lui déclara « Je vaincrai, je le crois, et vous, vous croyez que vous vaincrez, mais ce qui est certain, c'est que le sang allemand et le sang français couleront. » L'ambassadeur français lui dit « Si je croyais vraiment que nous l'emporterions, j'aurais également peur que le résultat de la guerre soit qu'il n'y ait qu'un seul vainqueur, M. Trotsky. » Et Hitler répondit « Je sais. » Car pour la bourgeoisie, la peur de la révolution prolétarienne s'incarnait en Trotsky. Trotsky fut assassiné le 21 août 1940 par un agent de Staline moins de 2 ans après la fondation de la 4e Internationale. Politiquement, celle-ci ne survécut pas à sa mort, car il était son seul véritable dirigeant. Les militants qui, en Europe ou aux États-Unis, l'avaient rejoint, malgré tout leur courage, n'avaient pas l'expérience et la trempe des militants de l'opposition de gauche soviétique. Ils n'avaient jamais été en contact avec le bolchevisme. Où auraient-ils pu le rencontrer ? Pas dans les partis stalinisés et encore moins dans les partis socialistes réformistes. En outre, le stalinisme avait érigé, entre ces faibles organisations trotskistes et la classe ouvrière, un rempart qu'il voulait infranchissable. En URSS, Staline avait fait exécuter la quasi-totalité des trotskistes. À l'étranger, même s'il fit assassiner Trotsky et d'autres dirigeants trotskistes, comme Léon Sédov, le fils de Trotsky, il ne pouvait pas liquider aussi facilement les révolutionnaires. En revanche, au sein du prolétariat, où il était hégémonique, il pouvait faire régner sa loi. Les staliniens systématisèrent la violence morale et physique contre les trotskistes pour empêcher que leurs idées pénètrent dans la classe ouvrière. Les militants trotskistes étaient dénoncés comme des agents de l'impérialisme, traités d'hitléro-trotskistes. Les rares militants ouvriers révolutionnaires, découverts par les staliniens, étaient dénoncés au patron pour être licenciés. Et les militants révolutionnaires qui se présentaient ouvertement devant les entreprises se faisaient casser la figure et menacer de mort. En introduisant des méthodes de gangsters dans le mouvement ouvrier, le stalinisme a aussi pourri ses propres militants. Il leur a appris à piétiner la démocratie ouvrière, à faire taire les oppositions, à se méfier de la base parce qu'elle pourrait être trop indépendante. Il a cultivé chez ses responsables l'arrogance et le mépris de ceux qui pensent à la place des travailleurs et décident de ce qui est bon pour eux. Le stalinisme a liquidé les militants capables de transmettre les traditions du bolchevisme. Il a créé un fossé entre la classe ouvrière et les idées révolutionnaires. Mais il n'a pas pu détruire ce que Trotsky avait écrit. Ses textes, ses analyses, ses programmes sont ce qui nous reste, et c'est inestimable. Le mouvement trotskiste sorti de la Seconde Guerre mondiale éclaté. Des militants avaient été tués, certains dans les camps nazis, d'autres assassinés par les staliniens. Il y avait des militants trotskistes dans bien des pays, en Europe, dans les Amériques, en Asie, en Afrique du Sud. Mais il s'agissait en général de tout petits groupes, sans implantation ouvrière, Formellement, la 4e internationale continuait d'exister et réussit à tenir un deuxième congrès mondial 10 ans après sa fondation. Mais bien sûr, sans Trotsky. Or, Trotsky incarnait à lui seul la politique et le programme de la 4e internationale. Il avait dirigé un parti ouvrier de masse et 2 révolutions, constitué et mené à la victoire une armée rouge de plusieurs millions d'hommes. À l'échelle internationale, les trotskistes qui étaient venus à lui étaient en grande majorité de jeunes intellectuels, coupés des masses ouvrières et qui ne comprenaient qu'à moitié les conseils qu'il leur avait donnés. Lors d'une discussion avec des militants trotskistes américains en 1939, Trotsky caractérisait ainsi les militants français, trotskistes français. Je le cite. « Il y a en France des camarades comme Naville et d'autres qui sont venus à nous il y a 15-16 ans, alors qu'ils étaient encore de tout jeunes gens. Et pendant toute leur vie consciente, ils n'ont reçu que des coups, subi que des défaites, de terribles défaites. Et ils en ont l'habitude. Ils apprécient hautement la justesse de leur conception. Ils sont capables de bonnes analyses. Mais ils n'ont jamais été capables de pénétrer dans les masses, d'y travailler. Ils n'ont jamais pu apprendre à le faire. » Naville, qui avait été en contact étroit avec Trotsky, cessa de militer après la guerre. Mais ceux qui se trouvaient à la tête des organisations trotskistes en France et en Europe avaient les mêmes défauts évoqués par Trotsky. Aux États-Unis, Cannon et les militants ouvriers qui l'entouraient avaient réussi à avoir une certaine implantation dans la classe ouvrière. Et ce n'est pas un hasard si c'est leur organisation qui suivit de plus près les conseils de Trotsky. Mais les seuls qui parlaient réellement le même langage que Trotsky, qui avaient l'expérience du travail militant révolutionnaire au sein des masses, avaient été ses camarades soviétiques, qui avaient tous péri, ou presque. Les militants à l'origine de notre courant ont rompu pendant la Seconde Guerre mondiale, avec le reste du mouvement trotskiste en France. Parce que la majorité de celui-ci, après la défaite militaire de 1940, avait mis en avant, je cite la formule, une politique de front commun avec tous les éléments pensants français. Ce qui était de fait un abandon de l'internationalisme. Mais le choix de rompre, pour ces militants, était surtout motivé par la nécessité de lier leur sort à la classe ouvrière, organiquement, humainement, concrètement, en revenant à l'idée fondamentale qu'il fallait commencer par construire une organisation en direction des travailleurs et des entreprises. Dans son rapport sur l'organisation de 1943, Barta, le militant d'origine roumaine qui dirigeait ce petit groupe, l'Union communiste, expliqua les raisons de cette rupture et de la constitution d'une organisation indépendante. Les idées de l'opposition russe, qui furent à la base de la naissance du courant de la 4e internationale, n'ont pas pu pénétrer dans un milieu ouvrier en France. Le fait que ces idées ont été adoptées surtout par des intellectuels manquant de véritables traditions communistes, qui pendant des années n'ont pas eu la possibilité de militer sur le terrain des luttes ouvrières, a conféré à l'opposition communiste en France un caractère petit bourgeois qui a rendu aléatoire tout développement ultérieur du mouvement en France au moment où la situation objective, les luttes prolétariennes de 1934 à 1939, fournissait une base solide à la propagation des idées de la 4e internationale. Nous nous sommes engagés depuis le début de la guerre dans la création d'une organisation de type révolutionnaire bolchévique. Le bolchévisme implique, avec une politique juste, un contact réel et étendu avec la classe ouvrière, la participation quotidienne à ces luttes. Il s'inspire des intérêts quotidiens et permanents de la classe ouvrière. Par son activité militante, l'Union communiste réussit à gagner des travailleurs au trotskisme et à former parmi eux des cadres, comme Pierre Bois, qui allait être le dirigeant de la grève de l'usine Renault à Billancourt d'avril-mai 1947. Où des milliers de travailleurs tinrent tête à la direction, au gouvernement et à l'appareil hégémonique de la CGT stalinienne, en s'organisant démocratiquement dans un véritable comité de grève. Craignant de se déconsidérer auprès des travailleurs, les ministres du PCF durent affirmer leur soutien à la grève et furent exclus du gouvernement. Le succès militant que représentait cette grève n'eut cependant pas de répercussions sur la façon de militer du reste du mouvement trotskiste, et l'Union communiste resta seule dans ses choix militants. Après la mort de Trotsky, tous ceux qui se fixaient comme objectif de construire des organisations sur la base du trotskisme étaient face au problème de s'orienter politiquement dans un monde où le stalinisme, prétendant être le seul et unique représentant du communisme et de la révolution, défigurait ces mêmes idées. Les idées du communisme révolutionnaire, authentiques, il fallait aller les chercher dans les livres. Et à l'époque, il n'était pas évident de trouver les ouvrages de Trotsky. Une des analyses les plus fondamentales de Trotsky et de l'opposition de gauche était celle de la nature de l'URSS. En mars 1934, alors que le stalinisme avait mené le prolétariat allemand à l'abattoir en le livrant à Hitler, et alors que Staline emprisonnait les trotskistes en URSS, Trotsky affirmait « Le fruit de la grande révolution d'octobre en Russie fut l'État soviétique. Il a montré quelle force et quelle possibilité recèle le prolétariat. L'État soviétique demeure aujourd'hui encore chair de notre chair et sang de notre sang. Et en ces heures difficiles, nous appelons tout ouvrier honnête à la défense de l'État soviétique. » Trotsky avait déjà combattu des militants qui ne voulaient plus assumer ce point de vue sur l'URSS. Après la guerre et sa mort, d'autres militants, tout en se revendiquant du trotskisme, remirent en cause les raisonnements de Trotsky sur l'Union soviétique. Bien sûr, tout le monde pouvait constater que derrière la propagande officielle, l'Union soviétique était de plus en plus éloignée de l'idéal socialiste d'égalité et de fraternité. L'enrichissement de la bureaucratie était de plus en plus écœurant et la dictature était féroce. Mais la société soviétique était le fruit d'une révolution, d'un séisme social d'une ampleur exceptionnelle dans l'histoire humaine. L'intervention directe des masses avait bouleversé en profondeur les vieux rapports sociaux. Les opprimés s'étaient libérés de leur oppression sous toutes ses formes et d'une façon radicale. Plus rien ne pouvait être comme avant, et d'abord dans leur tête. Ils avaient modelé de nouveaux rapports sociaux, ce qui en retour les avait transformés, eux, profondément et durablement. Seule une révolution prolétarienne, mobilisant des années durant, des dizaines de millions d'individus, pouvait réaliser cela. Aucun coup d'État, aucune révolution de palais, et même aucune révolution paysanne dirigée par la petite bourgeoisie ne pourrait avoir un tel effet. Alors dire que l'URSS était une dictature comme les autres, c'était balayer son origine révolutionnaire prolétarienne. Et en plus, ce raisonnement se faisait souvent sous la pression de la propagande anticommuniste, très forte au moment de la guerre froide et qui était largement relayée par les partis socialistes. À partir de la fin de l'année 1947, dans les pays d'Europe centrale, comme la Tchécoslovaquie, la Hongrie, la Pologne et d'autres, qui étaient occupés par l'armée soviétique, la bureaucratie stalinienne mit en place des gouvernements à sa botte pour empêcher ces pays d'échapper à son emprise. Ces démocraties populaires, comme on les appela par la suite, se revendiquaient du socialisme. Et formellement, dans cette période de tension entre l'URSS et l'impérialisme, ces régimes étaient alliés de l'Union soviétique. Mais de quelle nature étaient ces nouveaux États ? La majorité du courant trotskiste décréta que les démocraties populaires étaient, comme l'URSS, des États ouvriers dégénérés. Mais tracer un trait d'égalité entre ces États et l'URSS, c'était dire que la bureaucratie stalinienne pouvait jouer un rôle équivalent à l'action consciente de millions de travailleurs, et que la prise en main d'un appareil d'État par l'armée et la police politique de Staline pouvait avoir les mêmes effets qu'une des plus profondes révolutions sociales de l'histoire. Cela signifiait en clair qu'il n'y avait pas besoin de l'intervention de la classe ouvrière pour renverser le capitalisme. Pour notre part, nous nous sommes toujours tenus à l'idée fondamentale que rien ne peut remplacer l'intervention consciente des masses ouvrières. Et nous avons considéré que ces États, bien que passés sous la tutelle du Kremlin, n'avaient pas changé de nature et restaient des États bourgeois, et que seule l'Union soviétique était un État ouvrier, dégénéré, issu de la révolution d'octobre 1917. Après la Seconde Guerre mondiale, eut lieu l'explosion révolutionnaire des masses opprimées des empires coloniaux. Tout en étant extrêmement prudent devant les processus révolutionnaires qui se déroulaient, car les révolutions sont toujours imprévisibles, le point de vue qui a guidé les militants de notre courant pour s'orienter dans ces événements, ces révolutions, était d'essayer de comprendre quel rôle y jouait la classe ouvrière en tant que force politique et s'il s'y trouvait un parti ouvrier pour représenter ses intérêts politiques. La révolution chinoise, qui mena à la prise du pouvoir, le parti communiste de Mao, en 1949, secoua toute l'Asie. La paysannerie pauvre se souleva contre ses oppresseurs dans les campagnes, les propriétaires terriens et les seigneurs de guerre du passé. Et le parti de Mao se mit à la tête de cette révolte. Mais où était le prolétariat? Où était son action politique? Malgré sa faiblesse numérique, il aurait pu jouer un rôle dirigeant, comme une vingtaine d'années auparavant, la révolution ouvrière de 1927, dans le même pays, l'avait montré. Mais le Parti communiste chinois n'était plus un parti ouvrier. Son histoire, après la répression sanglante de 1927, l'avait entraîné loin des villes, dans les campagnes. Et il s'était transformé en un appareil de guérilla. Il s'était retrouvé à la fois coupé de la classe ouvrière, mais aussi coupé des milliers de petits bourgeois et bourgeois liés à la dictature et de ce fait incapables de la moindre opposition radicale. L'évolution originale du PC chinois en avait fait, malgré son nom qu'il conservait, un parti nationaliste petit bourgeois radical, dont les dirigeants avaient appris, à l'école du stalinisme, comment brandir les idéaux communistes pour tromper les masses révoltées. Il y avait en Chine des militants trotskistes, dont certains avaient été gagnés à l'opposition de gauche dès 1927. Mao les liquida physiquement. Aussi faibles qu'ils étaient, ils représentaient pour lui le danger d'une politique prolétarienne indépendante. Mao fit école. Du Vietnam à Cuba, en passant par la Corée du Nord et toute une série de guérillas, des dirigeants nationalistes s'inspirèrent de ses méthodes dans leur combat contre l'impérialisme. À chaque fois, il se trouva dans le mouvement trotskiste des militants pour y voir des processus révolutionnaires, donnant automatiquement naissance à de nouveaux États ouvriers. Gênés aux entournures, certains se sont sentis obligés d'y accoler l'adjectif « dégénéré » ou « déformé ». Mais les épithètes ne changent rien au fait que ces États n'avaient rien de commun avec ce qui s'était accompli en Russie en 1917. Depuis, le Vietnam et la Chine se sont spectaculairement ouverts au marché capitaliste. Le régime cubain s'oriente sur la même voie, et les mal nommées démocraties populaires ont rejoint le giron du capitalisme. Mais ce n'est pas tant que l'histoire ait donné raison aux analyses de notre courant qui nous importe, que les convictions sur lesquelles elle se fondait, et que le reste du mouvement trotskiste avait renié. Laisser croire que la bureaucratie stalinienne ou que des groupes nationalistes petits bourgeois, aussi radicaux soient-ils, puissent jouer le même rôle que la classe ouvrière, c'était tourner le dos au trotskisme. C'était renoncer à défendre le programme révolutionnaire du prolétariat en prétendant que d'autres pouvaient le réaliser à sa place. Ce qui caractérise notre courant, c'est notre fidélité à la classe ouvrière et au trotskisme. À l'époque où le PCF était tout puissant dans la classe ouvrière française et formait un cordon sanitaire autour d'elle pour empêcher les idées trotskistes de s'y implanter, les militants à l'origine de notre courant n'ont pas renoncé. Ils n'ont pas cherché à se tourner vers d'autres couches sociales qui auraient tenu lieu de substituts à la classe ouvrière. Et malgré les difficultés, ils ont créé une organisation ouvrière trotskiste. Aujourd'hui, les difficultés ont changé de nature. Ce n'est plus le stalinisme, mais le recul de la combativité et la profonde dépolitisation de la classe ouvrière que nous devons affronter. Mais c'est toujours avec les mêmes perspectives. Trouver le moyen d'implanter les idées trotskistes dans la classe ouvrière, avec la même confiance totale dans le prolétariat. Pour les communistes révolutionnaires que nous sommes, il n'y a pas d'alternative.
Alors je passe la parole à Max Célès de Combat Ouvrier.
Bonsoir camarades, bonsoir à tous. Notre groupe milite depuis 1971 en Martinique et en Guadeloupe. Ces deux îles furent très longtemps des colonies françaises, puis en 1946, elles eurent le statut de département français, sur le papier. Car pendant encore un demi-siècle, elles durent subir l'oppression coloniale directe avant l'obtention d'une relative égalité sociale et reconnaissance de liberté démocratique. Cependant, 72 années de départementalisation évolutive n'effacent toujours pas 3 siècles d'esclavage et de colonialisme. Nous sommes un groupe trotskiste, membre de l'UCI, Union communiste internationaliste, avec plusieurs autres organisations, dont Lutte ouvrière. Nous sommes aujourd'hui toujours un petit groupe dans ces deux petites îles des Antilles, mais nous avons été confrontés à une situation qui rappelle toute une série de situations qui ont existé dans d'autres pays pauvres, colonisés, semi-colonisés, où se sont posés des problèmes d'émancipation de l'oppression coloniale, impérialiste et raciale. L'échelle des pays n'exclut pas similitude, analogie et comparaison. Après notre fondation en 1965 à Paris, nous avons immédiatement milité en direction des travailleurs antillais de l'émigration d'abord. Dans le même temps, nous avons été confrontés aux idées nationalistes en vogue à l'époque, portées par des organisations nationalistes qui irradiaient alors les milieux de la jeunesse étudiante et même ceux des jeunes travailleurs politisés. C'était un mélange de maoïsme, de castrisme, de guévarisme, de négritude, d'idées venant du FLN algérien victorieux de sa guerre contre le colonialisme français, d'idées venant des nationalistes vietnamiens en pleine guerre alors contre les USA, après la guerre victorieuse contre le colonialisme français. Et tout cela arrosé d'une pincée de marxisme. Aux Antilles, en pleine période colonialiste, à une époque où les forces de l'ordre tiraient à vue sur les travailleurs en lutte, où la misère était comparable à celle qui existe encore, par exemple, en Afrique, les partis communistes staliniens avaient pris depuis longtemps un cours nationaliste. Au début des années 60, on vit apparaître des organisations nationalistes plus actives, prônant l'autonomie ou l'indépendance nationale par rapport à la France. En 1963, il y eut entre autres le GONG, groupe d'organisation nationale de la Guadeloupe, et l'OJAM, organisation de la jeunesse anticolonialiste de Martinique. Elles étaient relayées par les organisations étudiantes. Toutes ces organisations et partis mettaient en avant ce qu'ils appelaient la libération nationale, en reléguant la place de la classe ouvrière et des pauvres à ce qu'ils appelaient une deuxième étape. Après la libération nationale, cette deuxième étape qui devait être socialiste n'était en réalité qu'un futur hypothétique. En fait, ce que veulent les nationalistes, c'est l'avènement d'un État martiniquais ou guadeloupéen avec la petite bourgeoisie et la bourgeoisie au pouvoir. Quant à la classe ouvrière, quant aux classes pauvres, le rôle qui leur est dévolu, c'est d'accepter de construire l'État guadeloupéen et martiniquais en faisant tous les sacrifices qu'il faut au nom de la patrie guadeloupéenne et martiniquaise. En fin de compte, un rôle de piétaille pour les intérêts de la bourgeoisie et de la petite bourgeoisie locale. C'est ce que les nationalistes, tout comme en Chine ou au Vietnam, appelaient à l'époque la Révolution nationale démocratique et populaire. La RNDP. C'était l'alliance des 4 classes qu'avait prôné Mao en Chine, c'est-à-dire l'alliance de la paysannerie avec la classe ouvrière, la petite bourgeoisie et la bourgeoisie nationale. Ce programme suscitait bien des illusions chez les travailleurs et dans la jeunesse politisée, alors qu'en fait, il était mis en avant pour forger une nation bourgeoise indépendante de l'impérialisme français, pas pour faire triompher les intérêts des travailleurs et des pauvres. Aux Antilles, certains groupes indépendantistes, compte tenu de la fréquence et de la force des luttes ouvrières, ont choisi à partir des années 70 de se fondre dans la classe ouvrière et de créer des syndicats. Ils cherchent à utiliser les luttes ouvrières et susciter une agitation sociale et politique telle qui les mettrait en position de négocier avec Paris une forme d'indépendance. Ils n'y sont pas parvenus jusqu'ici, car les travailleurs ne les suivent pas sur ce terrain-là, quand bien même, par exemple, l'un de ces syndicats nationalistes demeure le syndicat majoritaire en Guadeloupe. Il s'agit de l'UGTG, Union Générale des Travailleurs de Guadeloupe. Pour notre groupe, il a fallu, dès notre création, évidemment dénoncer le colonialisme, ses crimes et ses massacres, et lutter pour l'émancipation des peuples de Martinique et de Guadeloupe de l'oppression coloniale. Mais il fallait mettre les intérêts des travailleurs et des pauvres en priorité dans ce combat-là. Dans notre manifeste de 1965, nous disions, je cite, « Depuis trois siècles, notre pays est sous la domination directe et sanguinaire de l'impérialisme français. Depuis trois siècles, nous sommes colonisés, vassalisés, notre développement économique est paralysé par la pression de l'industrie française, notre culture nationale est anéantie et la citoyenneté française que l'on nous offre depuis 1946 ne sert en fait qu'à sucer notre sang. Cette citoyenneté n'est que du prix et ne fait que masquer l'appauvrissement de plus en plus grand de notre population au profit de l'impérialisme français. Dans cette lutte, nous n'aurons pas à nous opposer seulement aux sbires et aux mercenaires de l'impérialisme. Nous n'aurons pas seulement à vaincre nos propres hésitations, nous aurons aussi à combattre ceux qui, dans notre propre sein, se voient déjà les profiteurs, les dirigeants autochtones des Antilles indépendantes. Notre lutte pour l'indépendance, c'est la lutte des classes pauvres, de la population pour une vie meilleure. Ce n'est pas la lutte pour que les bourgeois antillais puissent profiter de leur commerce sans craindre la concurrence impérialiste, pour que quelques médecins, avocats ou autres élites se retrouvent plus tard nantis de postes et de sinécures en nous prêchant le travail, la patience et l'espoir. Fin de citation. Une quinzaine d'années plus tard, on assista aux Antilles à un regain d'activisme nationaliste. Des groupes indépendantistes s'étaient donné pour but de contraindre par des attentats à la bombe le gouvernement français à négocier l'indépendance des Antilles. Il y eut en tout près d'une dizaine d'années d'activisme nationaliste de ce genre, de fin 1979 à juillet 1989. Notre groupe, en cette période, a donc dû faire face à cette situation nouvelle et inédite pour nous. Nous avons dû trouver l'activité et les mots d'ordre adéquats dans cette situation nouvelle à laquelle nous étions confrontés directement et trouver une politique conforme aux intérêts des travailleurs dans la lutte contre l'impérialisme français dans une période où l'activisme des groupes nationalistes, s'il ne rencontrait pas d'adhésion formelle de la population, suscitait quand même une certaine sympathie en son sein. Nous avions déjà évalué le fait que la population exprimait, comme elle exprime encore, plus un sentiment d'oppression raciale qu'un sentiment nationaliste d'indépendance politique. Ce sentiment, issu de la société esclavagiste et de l'économie de plantation, s'explique du fait que tout est dirigé et contrôlé par une minorité de blancs dans des îles où existe une majorité de noirs. Alors, par rapport aux nationalistes qui revendiquaient un État indépendant, nous avons alors mis en avant le slogan suivant : pour un État des noirs pauvres indépendant des Blancs et des riches. D'un autre côté, face aux attentats individuels des nationalistes, nous avons soutenu dans notre presse des groupes radicaux clandestins passés à l'action, mais d'une autre façon, en tentant d'y impliquer la jeunesse des quartiers et des travailleurs. Ce fut le cas, par exemple, de notre soutien aux actions du Comité contre le génocide par substitution, qui mena des actions dures, violentes, contre les symboles de l'oppression raciale dans les quartiers habités par des Blancs et contre leurs biens dans ces quartiers et dans les villes. Alors, oui, l'une des tâches des révolutionnaires communistes, des trotskistes, est d'abord de comprendre et ensuite de tenir compte du sentiment des masses opprimées. C'est le programme des quatre premiers congrès de l'Internationale communiste et le programme trotskiste qui nous ont permis de chercher, puis de comprendre en marxiste, le sentiment des masses en général, celui des masses des pays dominés et celui des masses noires et de couleur de nos pays. En particulier, les thèses sur la question nationale et coloniale et la thèse sur la question nègre des quatre premiers congrès de l'Internationale communiste dirigés alors par Lénine et Trotsky nous ont fourni l'orientation juste. Plus tard, en exil, lors d'une discussion sur les Noirs américains avec des militants américains, Léon Trotsky a déclaré, je cite, « La question de la religion n'a absolument rien à voir avec la question de la nation. Le baptisme d'un Noir est quelque chose de totalement différent du baptisme d'un Rockefeller. Ce sont deux religions différentes. » Fin de citation. De la même façon, les sentiments d'oppression d'un travailleur antillais noir ou de couleur envers son patron blanc est différent du sentiment d'oppression que peut ressentir un médecin, un avocat, un chef administratif noir ou indien à l'égard de l'administration blanche et des séquelles coloniales et raciales. Ce sont deux oppressions différentes, mais cette fois chez les Noirs eux-mêmes. D'ailleurs, fin de citation, enfin je l'ai déjà fini avant, hein, bon. D'ailleurs, aujourd'hui, nous pouvons déjà vérifier dans les faits, c'est qu'une fraction des notables nationalistes est parvenue à obtenir un ersatz de pouvoir local en Martinique, et ce sera le cas bientôt en Guadeloupe, avec une assemblée unique, remplaçant le Conseil général et le Conseil régional. On est bien loin de l'indépendance et même de l'autonomie. Mais cette petite miette de pouvoir local suffit déjà aux notables locaux pour le moment. Ils contrôlent en partie le produit des impôts et taxes payés par la population, ainsi que les crédits alloués par le gouvernement français et l'Europe, sans contrôle populaire, et s'en servent comme moyen de pression sur la population. Dans toutes les îles environnantes, c'est le même type de notable que l'on retrouve à la tête des États indépendants de la Caraïbe. Notre existence et notre personnalité politique ont été forgées dans la lutte contre le programme et les attaques nationalistes et dans notre activité militante dans la classe ouvrière. Notre groupe a une expérience des luttes ouvrières, celles menées par nos camarades dans les entreprises et dans les syndicats. Tout cela nous donne la possibilité, dans les périodes de fièvre sociale ou de montée de l'activisme nationaliste, d'exprimer la position communiste, trotskiste, même en restant minoritaire. Et c'est la formation trotskiste qui nous a permis de trouver les réponses les plus justes lors de ces situations-là, d'apporter des réponses de classe, des réponses communistes dans la lutte anticolonialiste, anti-impérialiste, parmi les travailleurs, au sein de la population et de la jeunesse prolétarienne et étudiante. Bien sûr, l'expérience des luttes n'est pas l'expérience révolutionnaire. Celle-là, nous ne l'avons pas. Mais le programme révolutionnaire, nous l'avons. C'est celui de Lénine et de Trotsky. J'ajouterai que dans notre zone géographique, l'histoire originelle des Noirs et des Indiens de la Caraïbe est la même. Le capitalisme exploite des millions de Noirs pauvres dans tout l'arc caraïbe, de Margarita, qui est une île qui se trouve au large du Venezuela, aux Bahamas. Et là, on passe par Haïti, où existe une organisation sœur, l'OTR, l'Organisation des Travailleurs Révolutionnaires, qui milite sur le même programme que le nôtre, au sein d'une classe ouvrière bien plus nombreuse et différenciée. L'exploitation impérialiste, la pauvreté, ont fait de ces îles des brûlots sociaux. Là réside une force potentielle révolutionnaire considérable des travailleurs et des pauvres qui explosera un jour. Et le virus révolutionnaire est contagieux. Le problème n'est pas de savoir si cela arrivera, mais quand cela arrivera. Mais bien sûr, il faut que les travailleurs se donnent des partis communistes révolutionnaires, condition indispensable pour le succès des révolutions ouvrières futures. Pour terminer, camarades, je dirais qu'aujourd'hui aux Antilles, comme ici en Europe, comme aux USA et ailleurs, tout semble aller en sens contraire de ce que nous voulons. Mais c'est précisément pour cette raison que notre existence même dans de petits pays, et quelle que soit notre force numérique, est importante. Elle est un des maillons des futurs partis révolutionnaires et de la révolution ouvrière, quel que soit le chemin que prendra cette construction et cette nouvelle période historique. Merci, camarades, de votre attention.
Je vais passer maintenant la parole à Judith Carter et à son traducteur.
Did she explain the translation? Comrades and friends, camarades et des amis. Does the United States seem to you like an enormous obstacle to social revolution? Well, it does to us also. It's not only the economic dominance of American imperialism and its military might of the American state. We can also ask, does the working class even see itself as a social class? American workers are not politically organized as a class. They have no mass party of their own and have never really had one. Moreover, the working class, with its long historical legacy from slavery, still is marked by deep divisions. Among the white workers, and this can include even the most recent immigrants, there is a sense of privilege, a very petty and mean privilege, it's true, but privilege nonetheless. Among the black workers, there remain distrust and bitterness toward the whites, and that means almost everyone else.
Les États-Unis, quand on les regarde de l'extérieur, apparaissent comme un obstacle énorme et menaçant sur le chemin de la révolution sociale, n'est-ce pas? Et de l'intérieur? Eh bien, nous avons aussi cette impression. De l'extérieur, on voit surtout la domination économique de l'impérialisme américain et la puissance militaire de son État. De l'intérieur, c'est le niveau de conscience très faible de la classe ouvrière qui saute aux yeux. On se demande parfois si elle se considère même comme une classe sociale. En tout cas, les travailleurs américains ne sont toujours pas organisés politiquement en tant que classe. Ils n'ont jamais eu leur propre parti. Et, en raison d'un passé marqué par l'esclavage, la classe ouvrière a hérité de profondes divisions. Les travailleurs blancs, y compris ceux qui sont arrivés récemment, trouvent normal de bénéficier de certains avantages. Des avantages bien petits et mesquins, mais des avantages quand même. Alors, parmi les travailleurs noirs, il y a encore de la méfiance et de l'amertume envers tous ceux qu'ils considèrent comme des blancs, c'est-à-dire tout le reste de la population.
These are exactly the problems that Trotsky focused on in his discussions with the American Trotskyist at the time the transitional program was discussed and adopted by the new Fourth International. In discussing a labor party, or labor and independent black party, he argued that revolutionaries should struggle for the transitional demands in the programs of these organizations.
Ces problèmes ont été abordés par Trotsky dans ses discussions avec les trotskistes américains au moment de l'adoption du programme de transition par la 4e internationale. Trotsky défendait l'idée d'un parti des travailleurs et plus tard l'idée d'un parti noir indépendant. Et il pensait que les révolutionnaires devaient lutter pour que les revendications transitoires figurent dans les programmes de ces organisations.
Starting in the mid-1960s, insurrections by the black population shook American cities. Like many others at the time, I was looking at answers to events that cried out for answers. By accident, in 1967, I came across an article, "The Black Revolt in the USA, A Hope for All Humanity." It started with these words, "For the past 3 years, the United States of America, the first world power and bastion of imperialism, has seen social warfare in its most radical form ravage its territory, a form which seemed to have disappeared from Europe for a long time, never again to reappear in a country enjoying a high standard of living. Urban insurrection, which brings the masses into the streets and sets the cities on fire." And the article ended with these words, I cite, "The American citadel of world imperialism has appeared for the last 40 years to be the only one impossible to take from within, or at least the one the fall of which seemed the least probable when compared to the weak and vacillating bourgeois powers of old Europe. The strongest link, which seemed never destined to yield, and on the contrary, seemed to provide the fist which would come to the rescue of the faltering arms of its European and Asian brothers, now reveals a flaw. The flaw will cause the link to break."
À partir du milieu des années 60, les insurrections de la population noire ont secoué les villes américaines. Comme beaucoup d'autres à l'époque, j'ai commencé à chercher des réponses aux questions brûlantes posées par les événements. Un jour, en 1967, je suis tombé par hasard sur un article intitulé « La révolte noire aux États-Unis, un espoir pour toute l'humanité ». L'article commençait ainsi, je cite, « Depuis 3 ans, les États-Unis d'Amérique, première puissance mondiale et bastion de l'impérialisme, voient la guerre sociale ravager leur territoire sous la forme la plus radicale qui soit, celle qui semblait avoir disparu d'Europe depuis longtemps pour ne plus jamais reparaître dans un pays à niveau de vie élevé, l'insurrection urbaine qui soulève les rues et enflamme les villes. » Et l'article se terminait par ces mots. La citadelle américaine de l'impérialisme mondial apparaissait depuis 40 ans comme la seule impossible à prendre de l'intérieur, tout au moins celle dont la chute paraissait la plus improbable quand on la comparait à toutes les bourgeoisies affaiblies et vacillantes de la vieille Europe. Le maillon le plus fort, qui paraissait ne devoir jamais céder et devoir être, au contraire, le point qui viendrait au secours du bras défaillant de ses compères asiatiques ou européens, avait une paille dans son acier. La paille fera céder le maillon. Fin de citation.
To those on the left who insisted that the poor black population should refrain from violence because only the whole of the American working class could take power, this article answered no. It is through the struggle of the most combative section of that working class that the whole of the working class can be pulled along, not only to understand their common interest, but to gain the same level of consciousness. It is not through propaganda, but in action, that the consciousness of both white and black will develop. At the same time, the article made clear the limits of the struggles as they were. The black population was going through events that could be the first stage of revolution, but with leaders formed only in the struggle, not with revolutionary Marxists at their head. The article proposed that the Trotskyist organizations had an indispensable role to play. They had roots in the history of the revolutionary movement, and they had an immediate responsibility to try to create a black revolutionary party on that programmatic basis.
À tous ceux qui, à gauche, demandaient que la population noire renonce à la violence sous prétexte que seul l'ensemble de la classe ouvrière américaine pouvait prendre le pouvoir, cet article répondait non. Il affirmait que c'est la lutte de la partie la plus combative de la classe ouvrière qui pourrait amener tous les travailleurs à comprendre qu'ils ont des intérêts communs et à atteindre le même niveau de conscience. Ce n'est pas par la propagande, mais par l'action que noirs et blancs pourraient acquérir cette conscience. En même temps, l'article précisait les limites de ces luttes. Les événements que vivait la population noire auraient pu devenir la première étape d'une révolution s'il y avait eu des marxistes révolutionnaires à la tête du mouvement et pas seulement des dirigeants formés sur le tas. L'article avançait l'idée que les organisations trotskistes avaient un rôle indispensable à jouer. En raison de leur lien avec l'histoire du mouvement révolutionnaire, elles devaient essayer de créer un parti révolutionnaire noir sur cette base programmatique.
For me, the article was a thunderbolt. It provided a perspective that I could not find in the American left. I also have to admit, I was amazed to discover it had been written in another country, France. Maybe it was a small lesson in internationalism. The article I quoted from was written by Voix Ouvrière, but it started from the reasoning that Trotsky had made in discussions with the American SWP in the 1930s.
Cet article m'a fait l'effet d'un coup de tonnerre. Il ouvrait des perspectives qui n'étaient défendues par personne dans la gauche américaine. Je dois aussi avouer que j'ai été très étonné de voir qu'il avait été écrit dans un autre pays, la France. Une petite leçon d'internationalisme, en quelque sorte. L'article que j'ai cité a été écrit par Voix Ouvrière, mais il partait du raisonnement de Trotsky dans ses discussions avec le SWP, le Socialist Workers Party, dans les années 30.
In 1967, the opportunity was not realized, and the situation has changed in many ways in the last half century. But the basic situation hasn't changed since then, nor since Trotsky affirmed the following in 1933. I believe that by the unheard-of political and theoretical backwardness, and the unheard-of economic advance, the awakening of this working class can proceed quite rapidly. It is then possible that the Negroes will become the most advanced section. They will provide the vanguard. I am absolutely sure that they will, in any case, fight better than the white workers. The question for any American organization is how it will find its way to this, the most oppressed part of the working class. Trotsky's reasoning remains as relevant today as it was in 1933.
En 1967, l'occasion de créer un parti ouvrier n'a pas été saisie. Et la situation a bien changé depuis. Mais le problème de fond est resté le même que dans les années 60 ou les années 30. Voici ce que Trotsky écrivait en 1933, je cite. « Je crois que, à cause de l'arriération politique et théorique sans précédent de la classe ouvrière américaine et des progrès sans précédent qu'elle a accomplis sur le plan économique, son réveil pourra se faire très rapidement. Il est possible que, à ce moment-là, ce soit les Noirs qui constituent l'avant-garde de la classe ouvrière. Je suis absolument certain que, de toute façon, ils se battront avec plus d'ardeur que les travailleurs blancs. » Fin de citation. La question qui se pose à toute organisation américaine est de savoir comment elle parviendra à tisser des liens avec la partie la plus opprimée de la classe ouvrière, car le raisonnement que faisait Trotsky en 1933 est toujours valable.
The other problem, the lack of a working class party in the United States, also preoccupied Trotsky. In 1938, discussing with the SWP, he said that the first step in the political education of the working class is to have its own mass party, and that this first step in the U.S. had already been overdue 5 or 10 years before. It's nearly a century later, and that first step hasn't yet been taken.
L'autre problème qui préoccupait Trotsky était l'absence aux États-Unis d'un parti ouvrier. En 1938, dans une discussion avec le SWP, il affirmait que la classe ouvrière franchirait une première étape de son éducation politique quand elle aurait son propre parti de masse. Il disait aussi, en 1938, que cela était déjà à l'ordre du jour depuis 5 ou 10 ans. Et, presque 100 ans après, cette première étape n'a toujours pas été franchie.
I cannot pretend that Spark, with our small forces, has the means to weigh on that issue. But at least we could find a concrete, practical way to intervene. In 2016, we began working to put Working Class Party on the ballot in Michigan. Our goal was to carry out an electoral campaign around our ideas, specifically that the working class needs its own political organization to intervene in the class struggle. The electoral machinery in the American states is complex and inhibiting. We had to get signatures of 31,000 voters in Michigan who said they supported putting a new party on the ballot. And we needed a margin of 10 or 20,000 more to be sure of meeting the goal. We weren't sure that we could find tens of thousands of people who agreed, and even if they agreed, how many would be willing to put their names on a paper to be filed with the state.
Je ne prétends pas que, avec les forces limitées de Spark, nous ayons les moyens de faire bouger les choses, mais nous pouvons au moins chercher un moyen concret et pratique de défendre cette idée. En 2016, nous avons lancé une campagne dont le but était de présenter un parti se réclamant de la classe ouvrière aux élections dans l'État du Michigan. Notre objectif, c'était de faire connaître nos idées, en particulier celle de la nécessité pour la classe ouvrière d'avoir sa propre organisation politique afin de peser sur la lutte de classe. Le système électoral en vigueur dans les États américains est complexe et vise à décourager les candidats potentiels. Pour se présenter aux élections, un parti doit rassembler des milliers de signatures de citoyens qui soutiennent sa démarche. Dans l'État du Michigan, il fallait réunir 31 000 signatures pour pouvoir se présenter. Eh bien, nous l'avons fait. Nous avons même dépassé ce chiffre, car nous pensions qu'il fallait un excédent de 10 à 20 000 signatures pour être sûr d'y parvenir. Au départ... Au départ, nous n'étions pas sûrs de trouver des dizaines de milliers de personnes qui seraient d'accord pour que notre liste soit présente aux élections. Et même si nous les trouvions, combien seraient d'accord pour signer une pétition qui serait remise aux autorités de l'État.
Trotsky discussing the Labour Party slogan with the SWP in response to doubts that the workers were not interested in the idea said, and I quote, "We can measure the mood of the workers only by action and only if the slogan is put on the agenda. But what we can say is that the objective situation is absolutely decisive." He could have been talking directly to us. De facto, the name of this electoral slate on the ballot, Working Class Party, itself became a political slogan in a situation which called for the working class to organize itself politically. It allowed some part of the working class, at least in Michigan where we campaigned, to express their wish to have their own party.
Eh bien, Trotsky avait en quelque sorte répondu par avance à cette question. Dans une discussion avec le SWP sur la nécessité de créer un parti ouvrier, il avait répondu à ceux qui prétendaient que les travailleurs se désintéressaient de cette question, je le cite, « C'est seulement dans l'action que nous pouvons connaître l'état d'esprit des travailleurs, et il faut que nos mots d'ordre répondent aux questions qui sont à l'ordre du jour. Dans tous les cas, la situation objective reste l'élément déterminant. » Fin de citation. De fait, le nom de notre liste, le Working Class Party, le parti de la classe ouvrière, est devenu notre mot d'ordre électoral, car la situation objective réclamait que la classe ouvrière dispose de sa propre organisation politique. Notre candidature a permis à une partie de la classe ouvrière d'exprimer sa volonté d'avoir son propre parti, en tout cas dans l'État du Michigan, où nous avons fait campagne.
Workers responded to our campaign beyond anything we imagined. When we first went out on the street asking strangers for their signatures, we met a few blank looks, a few hostile remarks, but many more would grab the petition and say, "Where do I sign?" An anecdote. A comrade was having her hair cut in a shop in rural Michigan. She started to ask the young woman cutting her hair to vote for Working Class Party. The woman drew back and said, "Working Class Party? What a good idea. Why didn't someone think about this before?" When our votes came in 2016, not only did we have many times more than we expected, 200,000, we had almost one-fourth of all our votes in areas of the state where we never campaigned. At least some of them must have voted for our candidate simply because for the first time they could vote working class.
Les travailleurs ont répondu à notre campagne au-delà de tout ce que nous avions imaginé. Lorsque nous sommes descendus pour la première fois dans la rue pour demander à des inconnus de signer notre pétition, il y a bien sûr eu des regards méfiants et des remarques hostiles. Mais beaucoup de gens prenaient la pétition et disaient « Où est-ce que je signe ?» Voici une anecdote. Un jour, une de nos camarades est allée se faire couper les cheveux dans un salon de coiffure d'une région rurale du Michigan. Au bout d'un moment, elle demande à la jeune coiffeuse qui s'occupait d'elle, si elle était d'accord de voter pour un parti ouvrier. La coiffeuse a eu un mouvement de recul, puis elle a dit « Un parti ouvrier ? Quelle bonne idée ! Pourquoi personne n'y a pensé avant ?» Finalement, nos résultats aux élections de 2016 ont dépassé nos espérances. 200 000 personnes ont voté pour nous. Près d'un quart des votes venaient de régions où nous n'avons même pas fait campagne. Cela signifie que des milliers de travailleurs ont voté pour nous simplement parce que, pour la première fois, ils pouvaient voter ouvrier.
« In 1938 already, Trotsky could say that the unions just coming out of the big fights for the CIO had already come to an impasse. And the only way out for the working class was to join together in political struggle to weigh on the class struggle. The SWP itself didn't have the means to offer itself to the working class as this party. Thus, he discussed with the comrades of the SWP ways to intervene in actions of the union to set up a party. Our election campaigns obviously cannot do what Trotsky was discussing in 1938, but it let us intervene at our level about the same problem. The response we got testifies to the relevance of what Trotsky said so many years ago about the American working class, including the idea that things could move much faster than anyone expected in the United States, this big obstacle to revolution.
En 1938, aux États-Unis, les syndicats venaient d'aboutir à la création d'une confédération organisant tous les travailleurs sans distinction, le CIO. Mais selon Trotsky, les syndicats se trouvaient malgré tout dans une impasse, et la seule issue pour la classe ouvrière était de s'unir et de lutter sur le plan politique afin de peser sur la lutte de classe. Le SWP n'avait pas les moyens d'être lui-même le parti dont la classe ouvrière avait besoin. Trotsky a alors discuté avec les camarades du SWP des moyens d'intervenir dans les syndicats pour aller dans le sens de la création d'un parti ouvrier. Nos campagnes électorales n'ont pas cette ambition, mais elles nous permettent de nous exprimer à notre niveau sur cette question. Nos résultats témoignent de la validité des idées de Trotsky sur la classe ouvrière américaine, y compris l'idée que les choses pourraient changer plus vite qu'on peut l'imaginer, même dans ce pays qui apparaît comme un obstacle à la révolution.
Bien. Nous allons faire une pause de 15 minutes avant que Pierre Royan conclue ce CLT. Voilà, 15 minutes, ça fait, disons 35 maximum, hein, assis.